Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Voilà, donc je vais prendre le temps dans cette émission de tout savoir sur toi, Hélène Merlin. Donc Hélène, l'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est d'élargir sa vision sur soi, d'élargir sa vision sur le monde à travers des expériences de vie. Donc j'aime bien donner la parole à des voyageurs, des écrivains, des réalisateurs, tous ceux qui sont en lien avec le voyage et le mouvement. Donc voilà, Regarde ailleurs, on va te rencontrer dans cette émission qui durera une bonne demi-heure. Donc à toi la parole, Hélène. Je sais pas grand-chose de toi, si ce n'est que tu es là sur un festival Oasis. Donc Oasis, c'est un réseau en France d'habitat participatif, d'éco-villages où les gens apprennent à vivre et construire et faire des projets ensemble. Tu es là avec ton camion et tu m'as glissé juste avant dans une discussion que tu es nomade depuis 2 ans. Donc on va revenir un peu sur ton histoire, sur ton itinéraire de vie et ce qui t'a amené à quitter ou à faire un virage dans ta vie et t'amener à vivre le nomadisme et à choisir de vivre dans un camion, ce qui est plutôt tendance en ce moment, la van life. Hélène, à toi la parole.
En fait, j'ai été confinée dans un petit hameau dans le sud de la France. Et mon couple n'allait pas bien. On s'était déjà séparés une fois, remis ensemble une fois et on a été confinés ensemble. Et en fait, pendant le confinement, on s'est dit que voilà, fallait qu'on se sépare. Et en fait, ma voisine de l'époque avait acheté un van qui était vide et elle commençait à l'aménager. Et tous les jours, je passais devant pour aller promener mes chiens dans les vignes. Et j'ai vu le camion petit à petit devenir incroyablement beau. Il est tout aménagé en bois. Et en fait, je lui ai demandé si elle avait déjà un acheteur. Et en fait, elle n'avait pas d'acheteur. Elle l'aménageait juste voilà, pour le revendre. Et du coup, je l'ai un peu accompagnée dans la fabrication, l'aménagement du camion sur la fin. Et en fait, je lui ai dit, c'est moi qui vais te l'acheter. Et c'était mon rêve, en fait, de vivre dans une roulotte quand j'étais gosse. Et d'un coup, là, je voyais un van qui était aménagé tout en bois, en pin, avec des lambris. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et je me suis dit, en fait, il est pour moi. Genre, il est tombé du ciel, vraiment. C'était pas du tout une option, je m'étais pas du tout projetée là-dedans. Mais là, vraiment, ça a tombé au bon moment. Évidemment, pendant le confinement, où ça a vraiment fait remonter aussi une prise de conscience écologique. Et puis, au moment de séparation avec mon couple, j'étais avec quelqu'un qui aimait extrêmement bien sa vie. Et on vivait dans une maison de 200 mètres carrés. Et avec un jardin, etc., 2 voitures, 2 motos, enfin vraiment le cliché des gens riches qui consomment, enfin qui vivent dans l'excès, enfin dans un excès à tout niveau.
Mais est-ce que tu savais que cette opulence matérielle, c'était pas ton chemin ? Est-ce que tu avais envie de vivre quelque chose de plus simple, ou au contraire, tu as eu cette vie parce que tu voulais ça, tu voulais cette opulence ?
Cette opulence me dérangeait profondément, en fait. Moi, j'ai toujours été, on va dire, pauvre. Je suis intermittente du spectacle. J'ai jamais eu de moyens. J'ai pas eu des parents riches. J'ai toujours été dans une vie très sobre. Et après, j'avais rencontré cet homme-là avec qui on a eu une histoire. Lui, il avait beaucoup de moyens et du coup, m'avait fait accéder, en tout cas, à une vie que je ne pouvais même pas me payer, mais du coup, dont je profitais des avantages. Mais j'étais profondément gênée aussi, et c'est pour ça que notre couple ça a débouché sur une séparation, parce qu'on n'était pas en accord sur plein de choses, et notamment sur l'engagement écologique et la sobriété. Donc c'était hyper cohérent, mais je m'étais pas non plus projetée quand même à acheter un van, parce que socialement ça peut, enfin c'est beaucoup plus accepté aujourd'hui, mais même à l'époque du confinement, pour moi en tout cas, c'était pas forcément une option de vie. Je m'étais jamais interrogée ou projetée dans cette vie là mais c'est vraiment cette idée que ça, quand j'ai vu ce camion là j'ai ressenti, c'est comme un rêve de gosse qui se réveille. En fait, je voulais vivre en roulotte à cheval, et en fait j'avais souvent rêvé de faire le tour du monde avec un chien ou en roulotte, parce que du coup vraiment c'était l'idée d'être avec des chevaux et de conduire une carriole à cheval. Mais là, ça s'est incarné comme ça et c'était très bien. Et, Et je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Il y a deux choses qui se sont jouées. Moi, je pense que j'ai une grande angoisse par rapport à avoir un toit sur la tête. Et du coup, pendant 7 ans de cette histoire avec ce mec, j'étais complètement détachée de cette question-là. Je ne me questionnais pas si j'allais remplir mon frigo ou avoir un toit sur la tête. Je savais que ce serait là. Donc ça m'a permis de créer plein de choses autour, d'écrire et de développer plein de choses et de, moi, explorer à l'intérieur, faire une thérapie un peu plus approfondie, etc. Mais là, de me dire, en fait, à un prix tout à fait raisonnable, accessible pour moi, puisque j'ai pas beaucoup de moyens, je peux avoir un toit sur la tête et je peux avoir la liberté d'explorer et je serai toujours chez moi. J'ai une très très grande anxiété, moi, par rapport au groupe, par rapport à l'intrusion, à aller à la fois entrer dans un groupe et à recevoir, enfin, qui sont liés à une histoire personnelle avec des violences sexuelles. Donc j'ai vraiment un rapport à la bulle d'intimité, à l'espace intime et à cette sécurité-là qui, du coup, avec le van, en fait, ça résolvait, ça répondait à plein d'angoisses que j'avais. À la fois d'avoir toujours cette bulle de protection autour de moi, ce toit sur ma tête voilà, et un coût très accessible.
Donc l'opportunité d'acheter ce van, hein, que tu as vu devant tes yeux petit à petit prendre forme. Donc ton rêve a pu grandir fur et à mesure jusqu'à ce que tu te lances dans cette van life. Est-ce que tu savais à ce moment-là que ça allait durer 2 ans? Parce que là, je crois que ça fait 2 ans que tu es sur les routes.
Effectivement, ça fait 2 ans. Je pensais pas du tout que... Enfin, je m'étais pas vraiment projetée dans une durée précise. Mais mon idée, c'était déjà d'explorer des écolieux, des lieux alternatifs, d'aller à la rencontre de gens qui sont dans cette dynamique-là, dans cette transition de vie. Et je m'étais dit, en fait, assez vite, je vais rencontrer un lieu, je vais rencontrer un collectif et je vais m'installer. Donc c'était, pour moi, c'était vraiment l'idée d'être transitoire et d'avoir cette liberté d'explorer tout en me sentant en sécurité. Et je pensais pas que ça durerait 2 ans, non. Je pensais que je trouverais un écolieu dans les 3 mois et que je m'installerais, que ma vie redémarrerait. Enfin, voilà, que j'aurais de nouveau une autre vie.
Alors pourquoi ça prend plus de temps? Parce que beaucoup de gens ont cette envie, hein, part faire du woofing ou veulent faire un tour de France des éco-villages, ont l'idée de trouver un lieu. Et c'est pas si simple, hein, finalement, de s'installer. Pourquoi pour toi? Est-ce que ça a pris plus que 3 ans? Et pourquoi après 2 ans, tu n'es toujours pas installé dans un lieu si c'est la direction que tu veux donner à ta vie?
Ça a pris plus de temps que j'imaginais parce que en fait on se confronte à la réalité concrète de ce que c'est de faire vivre un lieu, de ce que c'est de rencontrer des gens, de connecter avec des gens et de se connecter aussi à soi-même. Donc il y a tout un temps de découverte de soi, de confrontation à l'autre, de découverte de l'autre. Et puis en fait, moi, tous les champs des possibles étaient ouverts. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de charge, j'ai pas de loyer à payer. J'avais pas vraiment de boulot à l'époque puisque j'avais un projet artistique qui était vraiment un peu en péril et du coup qui a été décalé dans le temps. J'avais aucune contrainte, j'ai pas d'attache familiale puisque je suis pas très proche de ma famille et ils sont un peu éparpillés dans le monde. Donc en fait, tous les champs des possibles étaient ouverts. Et comme j'aime bien faire les choses à fond, je me suis dit, faut que j'explore toutes les régions, tous les types de lieux, tous les types d'activités aussi qui m'intéressent, en lien avec les animaux, en lien avec la nature, en lien avec l'artisanat, la terre, les cultures. Enfin, vraiment, donc du coup, j'avais presque trop d'envie, trop de désir, trop de curiosité, je vais pas dire trop, mais enfin, en tout cas, j'avais beaucoup de curiosité, envie de découvrir, etc. Et donc, du coup, en fait, ça prend du temps de faire un tour de France, de découvrir les régions, d'aller découvrir des lieux. Là, il y a environ, je crois, 600 écolieux qui sont en activité et qui fonctionnent. Il y en a plein qui sont en train de se former et d'autres qui sont en transition. Enfin, il y a, on va dire, près de 1000 lieux, c'est ça, en France, de lieux écolos alternatifs, de type oasis, on va dire. Donc, on peut pas aller tous les rencontrer, mais du coup, faut faire une sélection et puis faut aller sur place parce que c'est vraiment sur place qu'on se rend compte que est-ce qu'il y a une résonance en fait, est-ce que ça résonne avec les gens, est-ce que ça résonne avec le lieu, et ça, on peut pas, c'est pas quelque chose qui est intellectuel ou qu'on peut savoir en allant voir une fiche de projet sur internet en fait. Donc, ça prend du temps et en fait, ce temps-là, il est nécessaire. Et presque même, en fait, là, après 2 ans de van, j'ai envie de ralentir encore plus, c'est-à-dire soit de voyager en sac à dos à pied, soit de, en vélo, soit carrément relier mon rêve d'enfant de voyager à cheval. Mais j'ai encore envie de ralentir encore plus. Et parce que oui, aujourd'hui, on est dans une vie qui va tellement vite. Enfin, quand on prend l'avion, on peut être à l'autre bout du monde en 6 heures. Et c'est délirant, en fait. Et là, j'avais par exemple très envie de faire le chemin de Stevenson, donc cet homme qui a voyagé à pied pendant 13 jours à travers les Cévennes, de revenir à un rythme beaucoup plus lent, où on a le temps d'intégrer, de digérer, d'observer, de réfléchir et de laisser émerger des choses qui sont vraies. Moi, j'ai un gros défaut, c'est ma curiosité me pousse un peu, c'est presque de la boulimie en fait, de découvrir encore plus de lieux, etc., de gens, d'expériences. En fait, je pense qu'il y a un côté un peu névrotique dans cette gourmandise-là que j'ai. Et du coup, ouais, j'aimerais ralentir encore plus. Et du coup, et puis voyager de manière encore plus écologique, parce qu'évidemment, le van, ben, c'est du gazole et ça pollue. Et du coup, voilà, ce serait encore plus être en accord avec mes valeurs que de changer d'avoir un moyen de transport plus écologique.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
On parlera de la van life, hein. C'est un mode de vie que beaucoup de gens idéalisent, hein, mais j'imagine que c'est pas pareil en été qu'en automne, qu'en hiver ou qu'au printemps, donc on parlera des différentes saisons à habiter dans son van. Mais je rebondis sur cette liberté que tu peux avoir, tu dis pas d'enfant, célibataire, pas de loyer, est-ce que c'est pas des fois vertigineux de se rendre compte que tout est possible à chaque instant, si demain tu choisis de partir, de rester, enfin tout est possible?
Oui, c'est vertigineux, c'est absolument vertigineux. Oui, je disais que j'ai pas de compagnon, j'ai pas non plus de compagnon de route, donc je suis vraiment seule. Et du coup, oui, tous les champs des possibles sont ouverts et c'est vertigineux. Et c'est en ça où je sens que j'ai un grand besoin aussi de m'ancrer. Et mon espoir aussi dans l'exploration, c'était un peu absurde, mais enfin, pas, je sais pas comment dire ça, mais pas rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je sais pas, mais de me dire, ou le collectif de ma vie, mais j'avais une ambition aussi de me dire, ah, je vais vraiment rencontrer quelqu'un, un lieu, un collectif avec qui ça va résonner vraiment et ça va être une évidence et tout. Bon, c'est toujours pas là. Et je suis en train aussi peut-être de baisser un peu mes ambitions d'absolu. On aura compris que je suis quelqu'un de... C'est absolu. Oui, juste de dire qu'en fait, c'est le chemin. Mais c'est ce qu'on dit toujours. En fait, c'est le chemin qui est important. C'est l'exploration et c'est une rencontre. Et ça prend du temps aussi de découvrir quelqu'un. Et en fait, c'est juste... tout ce qui est coup de foudre, etc., finalement, faut s'en méfier un petit peu. Enfin, il y a quelque chose qui est pas, je trouve, juste, en fait, finalement, dans cette utopie-là. Et du coup, oui, c'est vertigineux. Et justement, et c'est pour ça, je crois que j'ai besoin de là de m'arrêter un petit peu, de m'ancrer ou de ralentir. Et c'est pour ça que j'ai envie de marcher, là, de partir, de faire des randonnées ou de partir en vélo. Pour avoir plus le temps d'intégrer et de me rencontrer moi aussi intimement, en fait, de traverser mes angoisses, de traverser mes doutes, de gérer aussi ce truc d'avoir envie de trop de choses. J'ai qu'une vie, donc voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quel choix je fais, quel métier je m'engage pour ma transition et pour ma deuxième vie. Et voilà, et je pense qu'en fait, les réponses, on ne les trouve pas en claquant des doigts et que c'est quelque chose qui va émerger. Et peut-être à un moment, oui, il y aura une évidence ou comme un coup de foudre, que ce soit avec un métier, une personne, un collectif, un lieu, une région. Mais je veux me dépouiller, en fait, me dépouiller aussi d'une éducation reçue, d'un mode de vie dans lequel j'ai été pendant 40 ans, puisque j'ai 40 ans aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette année, et de me dire aussi, en fait, ce dépouillement prend du temps. Et la vie en van, elle te permet vraiment de te délester de plein de choses, parce que tu peux pas emmener beaucoup de choses dans ton camion, donc ça t'apprend déjà à vivre beaucoup plus simplement. Et donc voilà, déjà c'était un pas, Et pour moi, et voilà, les autres vont suivre. Mais oui, j'ai un vrai désir aussi de m'ancrer. Tout, je sais que tout n'arrivera pas en même temps. Le lieu, le collectif, le métier, l'homme ou la femme. Enfin, je me dis que voilà, c'est les choses qui vont arriver step by step, quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire être nomade et vivre dans un van ? Parle-moi, enfin, est-ce que ça veut dire que tu es tout le temps en mouvement, ou est-ce que tu as quand même des pieds à terre où tu peux te poser pendant une semaine, deux semaines pour arrêter d'être dans la, en mouvement ? Comment tu gères ? Comment tu t'organises ?
Alors, il y a eu plusieurs configurations depuis deux ans. La première année, j'étais en van et j'ai fait pas mal de woofing, des expériences qui ne sont pas forcément toujours bien passées. Et du coup, après, je me suis dit, bah, en fait, je vais en profiter d'aller voir aussi mes amis. Donc, j'ai fait tout un tour de France pour aller voir mes amis. Et puis, à un moment, j'ai une mission de boulot quand même qui est arrivée. Donc, j'ai travaillé pendant trois mois. Mais en fait, c'était sur un tournage de film. Et on tournait en province. Et du coup, j'étais en van. Et donc, j'avais encore ma petite bulle avec moi et ma vie de nomade, même si je travaillais. Et après, j'ai essayé de m'ancrer sur un territoire où une amie avait des chevaux, élevait des chevaux, était dresseuse de chevaux. Et je m'étais projetée, c'est vraiment une passion que j'ai depuis toute petite. Et du coup, je m'étais dit, bah, tiens, peut-être en fait, je vais faire un projet avec cette personne. Finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai repris ma vie de nomade, accepté quelques missions de boulot. Et puis, y a évidemment, comme tu disais, les hivers aussi peuvent être froids en van. Et donc, je me suis posée dans un écolieu pendant trois mois. Je savais que c'était pas un lieu où je m'installerais, c'est pas un lieu où je voulais vivre. J'étais pas forcément en accord avec le modèle, mais c'était un lieu qui m'a accueilli ou qui m'a beaucoup ressourcé, où je me suis posée, où ça m'a fait énormément de bien. Et après, j'ai repris la route en faisant la pépinière Oasis, donc en étant accompagnée en fait sur ma transition, en recevant plein d'outils, plein d'apprentissages sur comment créer, fonder un écolieu, et en faisant des séjours d'immersion. Et entre ces séjours d'immersion, moi j'ai fait des camps autogérés liés à l'agriculture, ou des camps d'artistes activistes, ou je sais pas, j'ai fait des chantiers participatifs, enfin j'ai fait plein d'autres choses en plus de cette formation de pépinière Oasis. Et donc là, j'étais tout le temps un peu sur la route. Je faisais en gros une semaine d'immersion dans un lieu, un jour off de repos ou de trajet, une semaine d'immersion, un ou deux jours off ou de trajet, une semaine d'immersion. Donc là, en fait, j'ai eu six mois, mais vraiment hyper intense, donc à l'inverse de ce qu'est la vie au ralenti. mais en même temps, voilà, ça m'a permis de rencontrer plein de gens et d'affiner aussi un peu plus peut-être ce que je voulais vraiment. Là, j'ai un vrai désir de me poser. J'espérais trouver un lieu à me poser pour cet hiver dans toutes mes explorations. J'ai pas trouvé ce lieu. Du coup, je sais pas si je vais louer peut-être un truc toute seule aussi, pour après avoir vécu six mois de collectif, de me dire ok, revenons à quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus intime, et etc. Ou là je suis en train de regarder les annonces de yourtes pour acheter une yourte et peut-être me poser sur un terrain d'un écolieu, mais de façon peut-être provisoire, en me disant c'est pas forcément le lieu où je vais vivre, mais voilà. Donc je suis encore en questionnement, mais je sens que j'ai très envie de ralentir et de m'ancrer, donc je vais tendre vers ça au maximum.
Est-ce que tu rencontres beaucoup de nomades en France qui ont un mode de vie similaire au tien, à se déplacer de collectif en collectif, d'éco-village en éco-village, et qui vivent en camion?
Ouais, j'en ai rencontré pas mal. Évidemment, depuis le confinement, il y a eu une grosse vague de gens qui ont envie de changer de vie, de se rapprocher de la nature, d'avoir une vie plus simple et plus sobre. Donc j'en ai rencontré pas mal. Mais c'est pas forcément des gens avec qui... C'est marrant parce que quand on est nomade, on est aussi tous sur nos chemins perso en fait, donc on va se croiser mais on va pas forcément cheminer ensemble, et parfois on va se retrouver sur des lieux. Enfin là par exemple, j'ai retrouvé une fille qui était que j'avais croisée sur un écolieu au festival des hameaux légers. J'ai recroisé des gens qui sont là dans ce festival là et sur la résidence d'artistes activistes aussi, j'ai croisé des gens. Donc en fait, finalement, on se rend compte que le monde est tout petit et qu'on croise les gens dans plein d'endroits différents. Ouais, c'est un écosystème de gens qui est en chemin, en questionnement et tout ça. Donc évidemment, on partage des valeurs, mais c'est pas forcément des gens avec qui j'ai voyagé ou on se donne des rendez-vous. En fait, c'est beaucoup plus, comment dire, spontané que ça. En fait, potentiellement, on sait qu'on va se recroiser, mais c'est entre guillemets le hasard qui fait qu'on se retrouve. Ouais, après, tous ceux qui sont sur Instagram et qui... Moi, par exemple, j'ai un compte Instagram et je poste des photos, mais très peu, en fait, surtout de la nature, des animaux, parce que pour moi, c'est aller prendre le contre-pied un peu des réseaux sociaux où tout le monde se prend en photo en vivant sa meilleure vie, dans son super van, en étant super bien gaulé quand t'es une meuf ou super bien musclé quand t'es un mec, en disant ma vie elle est trop cool, et vendre une sorte d'utopie et de rêve. Et je veux pas être là-dedans, donc moi je poste surtout des images de nature et d'animaux et peut-être des moments que je vais pouvoir vivre et qui sont forts. Par exemple, me baigner nu dans une rivière, c'est un truc pour moi qui est vraiment hyper puissant, donc ça peut m'arriver de poster des photos de moi qui me baigne dans un lac ou dans une rivière et tout, mais je suis pas dans le culte de l'ego ou le culte du soi ou de la mise en scène d'une vie incroyable. Il y a eu des moments durs en van, j'ai tenu un petit journal, moi là, que j'ai sous la main là, des petits moments de bad ou des petits moments de joie énormes. Donc j'ai plusieurs trucs, je pourrais le relire et te citer quelques exemples si tu veux, mais oui, l'hiver il fait très froid, enfin ça m'est arrivé de dormir dans mon van quand il fait 1 degré dehors. Bon bah j'ai 2 énormes couettes en plumes, 3 couvertures, une doudoune, grand froid, un bonnet, des gants, une écharpe, 3 paires de chaussettes, un pyjama thermique machin là. Enfin genre bon voilà. Dormir dans son van quand il fait 0 degré, 1 degré dehors, ça va, c'est complètement jouable. Par contre, vivre dans son van, c'est-à-dire travailler, c'est injouable en fait. T'as trop froid aux doigts, tu peux pas rester immobile, etc. Quand il pleut, évidemment, la vie en van, ben, c'est moins confortable en fait, parce que ben, t'es cantonné à rester dans ton intérieur. Après, moi, j'ai une bibliothèque dans mon van, donc j'ai plein de bouquins. Donc, en fait, je kiffe aussi quand il pleut, parce que j'ai aucune culpabilité à me dire il faut faire ci, il faut faire ça, je suis dans mon van et c'est trop bien. Mais bon voilà, il n'y a pas que des avantages, et puis il y a parfois aussi des moments où tu cherches un spot pour te poser et tu trouves pas en fait, et tu vas te tourner pendant une heure et tu trouves pas, c'est soit trop près d'une route, soit ceci, soit cela, soit il y a des moments où ça s'aligne pas les planètes quoi, et donc ça peut être aussi frustrant. Enfin moi il y a eu des moments où c'était difficile, c'est surtout l'année dernière où d'un coup je me suis dit putain mais j'ai totalement raté ma vie quoi, je suis en train de devenir dans 2 ans je serai clocharde, enfin tu vois, le truc de d'angoisse aussi de dire je suis hyper précaire, je suis en train de me désolidariser de la société, mais en fait je suis en train de me perdre aussi. Enfin il y a quelque chose où il y a eu des moments où je me disais même des moments où j'allais voir mes parents. Et je sentais quand je partais de chez eux, je voyais dans leur regard, je me disais mais je suis un échec quoi. Pourtant je suis quelqu'un d'intelligent, de machin, de bidule, j'ai plein de talents, mais là je me sentais sur une phase où je me disais mais j'ai tout raté quoi. Et du coup il y a des moments où c'est fragilisant en fait de sortir de la société dans laquelle t'as été pendant 40 ans en fait, et d'être sur un autre chemin. Ça peut être flippant parfois, il y a des moments, ça c'est pas en permanence tu vois, mais il y a des moments où ça peut t'arriver en disant mais qu'est-ce que j'ai fait quoi.
C'est quand même des moments choisis, et je pense que tu peux avoir la même réflexion quand tu te retrouves avec une femme, des enfants et un chien.
Totalement, non mais totalement. Moi je suis très très contente de ma vie et de cette liberté que j'ai, qui est inouïe en fait, qui est inouïe et qui, oui, a un côté vertigineux, mais j'ai l'impression que là, à 40 ans, que je suis en train de commencer à me rencontrer. Il était temps. Mais non, mais ça prend une vie de se rencontrer. Mais là, je me dis, en fait, c'est hyper chouette. J'ai aucune contrainte. Donc, c'est incroyable. Et franchement, je ne peux qu'inviter les gens, évidemment, s'il y a un élan d'aller explorer ça, même sur une courte durée, même en louant un van, mais d'aller toucher du doigt ce que c'est que de vivre à son rythme et de sentir, ouais, cette sensation de liberté, de grande liberté.
Mais il y a quand même une réalité économique. Comment tu fais pour être libre tout en prenant en considération qu'il faut quand même quelque part un peu d'argent pour pouvoir vivre cette liberté?
Absolument. J'ai de la chance d'avoir... j'avais mis de l'argent de côté. Et du coup, après ma séparation, j'ai vraiment été hyper mal aussi. Enfin, c'était vraiment un changement de vie vraiment drastique, hein, de passer de maison de 200 mètres carrés avec tout le confort et tout, surtout ne pas avoir cette angoisse de l'argent, de se soucier de ça, etc. Donc, et je suis passée du jour au lendemain d'une vie dans 3 mètres carrés de mon van et seule. J'avais cet argent de côté et je me suis dit ok, je voulais pas reprendre un boulot, je savais que c'était vraiment pas juste et que ça aurait été répondre à une angoisse justement de... Et je voulais pas écouter cette peur-là. Elle existe cette peur, évidemment qu'elle existe. Peur du manque, peur de tout ça, mais je voulais pas écouter cette angoisse. Donc je me suis dit ok, t'as un peu d'argent de côté, je me laisse un an et demi pour explorer, me donner du temps. Vivre, me rencontrer, rencontrer des gens, voyager. Et pour moi, du coup, je me cantonne à la France parce que je me suis aussi rendu compte que pendant mes 20 ans, entre genre mes 18 ans et mes 37 ans, j'ai voyagé à l'étranger, j'ai fait la Bosnie, la Serbie, la Croatie, l'Argentine, la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Europe aussi, mais je connaissais. Je vais pas dire mieux l'étranger, c'est pas vrai, mais je connaissais pas mon pays en fait. Et je suis née en France et je connaissais pas bien les régions. Et du coup, je me suis dit, je vais aller à la rencontre aussi de mon pays. Et en fait, il est tellement beau, quoi. Il y a tellement de régions qui sont différentes, il y a tellement de diversité de nature, de. Enfin, ouais. Donc, du coup, j'avais. C'est pour ça que je me cantonne à rester sur le territoire français. C'est d'aller rencontrer la terre où je suis née en fait.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Hélène, tu avais dans ton téléphone un petit journal que tu écris dans 2 ans dans un van, donc forcément tu as le temps de pousser un peu la réflexion et de faire un voyage intérieur quand tu te retrouves dans ton van les jours de pluie, donc tu écris. Est-ce que tu as envie de partager? Donc c'est vrai que tu disais avant et très justement que beaucoup de gens idéalisent complètement la vie en van, peut-être parce qu'on va suivre des Instagrammeurs qui vont mettre en avant quelque chose de complètement idéal. Voilà, fais-nous un petit peu redescendre de cet idéal que certaines personnes peuvent avoir.
Du coup, je vais lire que les bad, enfin que ce que j'ai marqué. C'est des petites anecdotes que j'ai marquées, mais pareil, la première fois où j'ai pris mon van, j'ai mis les clés dans le van, j'ai démarré mon van, et là, il y a une angoisse qui est montée de me dire waouh, j'ai jamais voyagé vraiment seule, enfin à ce point, et la nuit aussi, enfin je suis une femme. Il y a toujours cette question-là de dire est-ce que les femmes peuvent voyager seules et voilà. Et donc je me suis dit bon, la première nuit en van, c'est que je veux vraiment pas non plus écouter la peur de qui va monter en fait. J'ai beau grandir à la campagne en pleine nature et que je suis beaucoup plus à l'aise dans la nature, mais il y a toujours un endroit où quand même tu te dis bon. Et donc j'ai passé ma première nuit, ma toute première nuit en van sur une aire d'autoroute parce que je me disais au cas où, alors ce qui peut être totalement paradoxal parce qu'on peut avoir des imaginaires par rapport aux camionneurs ou bref, mais tu peux te dire non en fait au moins je sais pas si c'est un espace qui est clos, enfin entre guillemets une aire d'autoroute c'est quand même clos et puis si jamais il y a besoin de secours je peux crier, il y aura quelqu'un quoi. Et en fait le matin je me suis réveillée et d'un coup je me suis dit c'est bon. J'aurais plus jamais peur de dormir nulle part, en fait. Après, quand même, une fois, par exemple, je m'étais posée sur un chemin en bord de champ avec des vaches et j'écrivais, en fait, j'étais en train d'écrire un scénario. Et il y a une bagnole, il était genre 22h30, il faisait nuit, il y a une bagnole qui arrive, plein phare, le mec sort, un gros bonhomme, limite il avait un fusil, j'étais là bon, et le mec me dit « qu'est-ce que vous faites ici ?» Et je lui dis « rien, je m'étais posée, j'écris ». Le mec, il, genre, il comprend pas ce que je dis. Quoi ? Oui, bah, j'écris. Le mec, il comprenait pas, quoi. Et il me dit, vous êtes toute seule ? Et là, je me suis dit, est-ce que je lui mens en lui disant non, je suis avec quelqu'un parce que du coup, j'ai peur de représailles ou je sais pas quoi ? Et je me dis, bah non, je vais lui dire vraiment la vérité, en fait. Bah oui, je suis seule. Et là, le mec, il comprenait pas, quoi. C'était hors de son système de pensée. Il voit une petite meuf qui est là, sur un chemin de terre, en train d'écrire la nuit en pleine campagne, etc. Et d'un coup, en fait, il a pris ma plaque d'immatriculation. Et j'ai dit, mais vous faites quoi en fait là ? Il me dit, bah, si jamais il y a un problème avec les vaches ou je sais pas quoi, au moins j'aurai votre j'aurai une trace, quoi. Et je fais, ok. Et là, en fait, il y a un truc où en moi, j'ai envoyé des signaux au mec en disant, bon, en fait, là, vraiment, laisse-moi tranquille, en fait. Je fais rien de mal, je suis sur un chemin communal. Ok, merci, bonsoir, quoi. Et je l'ai un peu envoyé, enfin, je sais pas, il s'est barré et tout ça. Je suis restée cordiale, mais vraiment, à l'intérieur de moi, c'était « dépasse pas les limites », en fait. Et je me suis enfermée dans mon van. Évidemment, j'ai une peur qui est montée, quoi. Et je me suis dit « non, encore une fois, je n'écoute pas cette peur ». Donc, c'est-à-dire, je suis en train d'écrire, donc je termine genre, mon chapitre, etc. Donc, j'ai écrit encore pendant une heure. Et puis, quand j'ai eu fermé mon ordi, je me suis dit « bon, est-ce que je reste ici pour dormir ou pas ?» Et là, je me suis dit « en fait, t'as quand même dit que t'étais seule ». Donc, je me suis dit, bah, je vais bouger. Et donc, j'ai bougé pour aller dormir ailleurs. Après, ça n'a rien de grave et rien d'inquiétant, mais c'est toujours des questions aussi quand tu es une femme. Moi, quand je m'installe, par exemple, en pleine nuit, je fais hyper gaffe de... juste par sécurité, en fait, de ne pas sortir seule ou de me montrer ou de mettre des lumières, de me dire que je peux être vue. Plus que je ne peux voir moi. Donc quand par exemple je m'arrête en pleine nuit à un endroit, je passe par l'intérieur dans mon camion, je sors pas pour ensuite aller à l'arrière de mon van. Donc j'escalade ma paroi pour passer, pour pas que les gens voient que je suis seule, en fait. J'ai toujours un truc où je me dis, ben, je fais gaffe, en fait. Je veux dire, les histoires de viol, etc., on en a entendu pas mal, mais bon, je veux pas répondre à cette angoisse, mais je reste quand même vigilante.
Mais tu as eu des histoires où tu as entendu parler d'histoires de gens en camion qui se font emmerder pendant la nuit à part des flics qui viennent te demander de partir ?
Non, je pense que c'est un imaginaire. Mais ça fait partie d'un imaginaire collectif ou d'une narrative ou d'une fiction. Non, j'ai jamais entendu ça. Ça m'est jamais arrivé. Une fois, un truc hyper drôle, c'est que je me gare à un endroit et je passe, donc j'escalade par l'intérieur pour aller, il faisait nuit, je me cale dans mon lit et là d'un coup je sens mon camion trembler et là ça m'a rappelé une histoire d'horreur que mon frère me racontait quand j'étais petite, l'histoire d'un mec fou qui monte sur le capot de la voiture avec une tête qu'il a découpée et tout et qui tapait sur le capot avec la tête et en fait j'ai eu hyper peur, d'un coup j'ai une peur qui est remontée.
C'était une vache qui se grattait ?
Non, pas du tout, j'ai oublié de mettre mon frein à main et mon camion était... J'étais vraiment fatiguée et mon camion était en train tout doucement de descendre le chemin où je m'étais garée. Bon bref, donc j'ai sauté sur mon frein à main et j'ai tiré le frein à main. Mais je veux dire, c'est marrant comme quoi on a quand même des traces des imaginaires, d'histoires d'horreur qu'on se raconte quand on est gosse ou de faits divers qu'on a pu voir et qui quand même sont un peu là, même si on les écoute pas.
Et quand tu te poses comme ça pour la nuit, tu restes juste une nuit et tu repars le lendemain matin, ou ça t'arrive de rester posé en pleine nature pendant plusieurs jours ?
Ah, ça m'arrive de rester posé en pleine nature pendant plusieurs jours et c'est vraiment le plus gros kiff, en fait. C'est quand il y a un endroit dans le sud où il y a à côté d'un lac que j'aime beaucoup où je vais me poser et je peux rester, je sais pas, 4 jours. J'ai fait des courses avant, j'ai des légumes. Et je vais me laver dans le lac et je profite pour lire beaucoup ou écrire ou être seule aussi quand t'es beaucoup dans une exploration où t'es en mouvement ou en contact avec des collectifs, avec plein d'autres gens, d'avoir des moments où tu te retrouves juste seule avec toi-même et dans ta petite maison qui roule, quoi. C'est genre incroyable. Et juste ouvre ta porte et ouais, t'as la nature à perte de vue et c'est trop bien. Et après là tous les horizons sont ouverts parce que j'ai pas de boulot, j'ai pas de rendez-vous, en fait.
Donc tout est possible.
Donc tout est possible.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast s'appelle Regarde ailleurs et donne la parole à ceux que je rencontre sur mon chemin de photographe voyageur, ceux que j'aime interviewer, ceux qui pour moi sont inspirants, partant de l'idée qu'une personne, que le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur toutes les plateformes de streaming en tapant Regarde ailleurs.